Bonsoir tout le monde. Donc, on se retrouve pour cette dernière partie. On va commencer par la présentation de Kevin.
Oui, c'est
donc,
ça.
Kevin, vous avez la parole.
Oui, voilà. Bonjour à tous. Mon nom est Kevin Bardoche. Je suis un anthropologue médical appliqué qui est maintenant basé à l'Université de Washington, à Seattle. Avant ça, j'étais à Floride et l'histoire va très longtemps de la vie. J'ai parlé avec Alice il y a juste quelques jours et je disais, voilà, il y a une conférence, je ne suis pas trop loin à Genève, pourquoi pas, je peux venir. Et même s'il y a quelques moments, je peux présenter quelque chose, un travail qu'on a fait, ce n'était pas juste moi, une équipe de chercheurs, pour regarder à le terrain de sciences sociales dans l'espace de l'épidémie. Et c'était spécifiquement un boulot pour les bailleurs de fonds. Alors, les bailleurs de fonds sont très intéressés dans cet espace, beaucoup plus après Ebola, mais même avant, il y avait des mouvements avec Risk Communication et des autres choses. Il y a une histoire un peu longue, mais vraiment avec Ebola, comme on connaît, c'est vraiment agrandi. Mais les bailleurs de fonds, en un sens, ils ne savent pas toujours c'est quoi le science sociale et le domaine science sociale. Et aussi, il y a même beaucoup de confusion entre les chercheurs sciences sociales, c'est quoi les priorités pour les bailleurs de fonds. Alors, on était donné un petit travail. C'était financé de Wellcome Trust et DFID dans le Royal Uni pour vraiment regarder à le terrain et de voir c'est quoi les priorités pour les bailleurs de fonds. Alors, pour ça, on a parlé avec beaucoup de gens, faire des entrevues informelles avec presque 100 acteurs de recherche sciences sociales, épidémiologie, biomedical et humanitaire. On a aussi regardé beaucoup dans la littérature. On faisait des discussions de focus group avec différents réseaux et c'était vraiment un grand travail. Dans ce sens. Et je veux juste faire un highlight de les grands points pour guider la discussion qu'on va avoir. Et je pense que beaucoup des points, on a déjà touché aujourd'hui dans différents sens. Alors ça, c'est le rapport qu'on a finalisé. Le nom, c'est « Towards People-Centered Epidemic Preparedness and Response, From Knowledge to Action ». Et c'est sur ligne. L'autre chose, c'est le rapport, c'était fait pour une conférence de Globidar. C'était en Tokyo il y a quelques mois. Alors, c'était pour informer les bailleurs de fonds qui étaient là. Et vraiment, dans le rapport, on fait une thèse très fort. On dit que le science sociale peut sauver la vie. OK? Alors, on attrape l'attention des bailleurs de fonds parce que, dans un sens, notre travail, c'était de faire une sales pitch en anglais hein, pour dire que c'est une espèce de recherche de connaissances, des approches qui ont beaucoup de valeur, mais qui sont négligées dans l'espace de response. Et si on investe d'argent, on va avoir des impacts positifs. Alors, on avait cette claim très, très claire. Si on peut voir un peu, juste pour penser, de the evolution de cet espace, on a beaucoup de choses qui ont changé il y a 5 ans. Poussé vraiment par l'épidémie de Ebola. Ça, c'est 2 petits articles de commentaires dans le Lancet, un de 2012, qui vraiment fait une explication, c'est quoi la valeur de sciences sociales. Alors, c'est un peu réactif, OK? Et maintenant, on a un commentaire de 2019 qui dit non, maintenant, on a un réseau. Alors, il y a du progrès. Mais pour nous, dans le rapport, et généralement, notre vision, c'est de mettre le science sociale à le même niveau que les autres disciplines qui sont plus établies dans cet espace. Ça veut dire virologie et épidémiologie. Alors ça, c'est notre comparative fields that we're looking to. And I think, et ça, c'est aide pour parler avec les bailleurs de fonds et des autres personnes pour dire, non, science sociale, c'est pas juste un peu d'argent et tu vas sur le terrain pour 2 semaines et tu écris et tu es comme un journaliste local ou quelque chose. Non, ça doit avoir des ressources qui sont bien attachées à ce travail. Alors, à partir de ce boulot, on a regardé à les gaps, vraiment dans le territoire. Okay? Alors, on a les chercheurs, comme tous les gens qui sont ici, et on a l'espace de réponse épidémiologie. C'est quoi les gaps entre les deux? Et on n'était pas surpris qu'il y avait beaucoup des gaps. Alors, juste généralement, un, c'est lack of resources, alors pas beaucoup de ressources. Par exemple, si on regarde OMS, il y a une personne qui est chargée dans le département de Emergency, qui a presque 1 900 employés, on peut dire. Il y a une personne qui est chargée de sciences sociales, community engagement et risk communication, les trois ensemble. Okay? Mais quand tu regardes le plan, pas le plan, mais l'analyse de les activités de OMS pour l'année 2018, community engagement et sciences sociales et risk communication, c'est sur presque chaque page. Alors, il y a un gap entre les ressources et le discours, on peut dire. Okay? Il y a des gaps de capacité, on sait ça. Project-based model. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on comprend très bien. On a un petit projet, on fait un boulot, mais on ne sait pas c'est quoi le sustainability long-term de ce travail. Duplication, okay, competition, lack of coordination, quality of data. Alors, par exemple, maintenant, je travaille un peu avec Juliette Bedford, qui a parlé avant, dans l'épidémie de Ebola à DRC. Et moi, je prends les recherches des ONG sur le terrain et je fais un synthesis de tout ça. Okay? Alors, quand on parle de data sharing, ça rentre dans ce coin. Mais moi, je vois qu'il n'y a pas une data collaboration, okay, au niveau de commencement de cette étude. Alors, ça, c'est un autre problème un peu, qu'on a un ONG qui fait de recherche, mais il y avait une autre NGO qui a fait presque la même recherche. Alors, pourquoi est-ce que tu as deux différents rapports, okay? Alors, ça, c'est aussi rentre dans le quality of data. Et aussi, beaucoup des études de CAP sont, on doit les laisser dans les poubelles. Pas tout, mais il y a beaucoup qui ne sont pas trop forts. Et on connaît la situation. Les problèmes de networks and tools, translation de connaissances dans les changements de pratiques sur le terrain, confusion entre c'est quoi sciences sociales et la relation entre sciences sociales et community engagement and risk communication. Okay? Ils sont des trois, on peut dire, expertises différentes, mais il y a quand même des parallèles. Et legitimacy. Alors, on a quand même beaucoup de problèmes pour d'être mis sur le table avec les autres acteurs dans ce coin. Alors, beaucoup de problèmes, on peut dire. Notre vision de sciences sociales, c'est grand, okay? Et on a commencé avec ce terme « epidemic social science », parce que maintenant, on peut dire qu'il y a beaucoup de anthropologie dans cet espace, mais il y a aussi beaucoup des autres disciplines qui veulent être partie de cette discussion et aussi une recognition que, par exemple, la sécurité, la science politique est importante et psychologie des autres disciplines. Et ça pose un problème parce que si on est focalisé, par exemple, si on dit anthropologie, c'est important, on doit donner l'argent pour agrandir une capacité d'anthropologie, c'est un peu plus simple que si on dit on doit avoir une discipline science sociale. Hein? C'est comme dire on doit avoir des sciences naturelles. Dans ce coin, c'est tellement grand. Alors, ça pose un problème et je ne sais pas, je ne pense pas qu'on a découvert comment d'aller avec ce problème. Mais quand même, on avait cette vision. Et aussi, on a un scale de recherche académique sur un côté, des recherches hybrid scholars practitioners, Okay? Et de recherche de community data collectors. Alors, on rentre tout ça dans notre vision. Alors, le rapport est séparé en trois niveaux d'investments. Un, c'est le response capacité sur le terrain rapide pour contain un flambé, par exemple. Deuxièmement, on a les recommendations pour la science sociale, applied and basic science. Et le troisième niveau ou domaine, c'est le nom qu'on étudie, c'est un supportive ecosystem. Et dans le rapport, on a 38 recommendations avec 17 qui sont les priorités. Alors, très vite, le premier domaine, niveau, c'est divisé en deux. C'est le Rapid Core Response Capacities, des organisations comme MSF, Croix-Rouge, OMS, UNICEF, des autres, et de support, l'infrastructure qui supporte cette capacité de répondre très vite. Et on voit ces organisations qui sont ici sur le slide, il y a des capacités qui sont latent capacity, qui pourraient vraiment agrandir cet espace ou remplir les trous, on peut dire, très vite. Et on a Africa CDC, par exemple, commune. Quelques priority recommendations dans ce domaine, c'est des mécanismes pour secondment avec les acteurs de response comme OMS, UNICEF. Et on voit que GORN peut jouer un rôle très spécifique dans cet espace. Numéro deux, c'est les fonds pour les organisations de response comme OMS, UNICEF, des autres, pour intégrer les chercheurs sciences sociales dans leur département, dans leur unit, parce qu'il n'y a pas déjà vraiment cette genre d'espace ou capacité. Troisième, c'est les capacités pour analyser l'information dans le terrain, aussi dans le niveau global. Et troisièmement, c'est d'avoir les guidelines et standard operating procedures for knowledge translation, pour traduire le connaissance. Deuxièmement, c'est le domaine applied and basic science. Ici, on a aussi différentes recommendations dans différents subdomaines. Agenda setting, so defining the priorities, c'est quoi les priorités de recherche qui sont les plus grands et les plus petits pour avoir une coordination entre les chercheurs. Voilà. Numéro deux, c'est une façon de faire les training, les formations. Alors, on a l'exemple de Social Net, qui est vraiment une bootcamp, on peut dire, pour les chercheurs du terrain. Le cinq, c'est les handbook and guidelines that for field teams, pour les chercheurs sur le terrain. Si c'est différents aspects de science, One Health, le Epidemiology Anthropology Tandem, la relation entre les deux, et aussi une plus visible engagement avec power, hein, sur le terrain. Aussi des problèmes d'évidence. Alors, quand je parle avec beaucoup de personnes qui ne sont pas les sciences sociales, ils me disent comme, mais c'est où l'évidence que tu peux avoir un impact réel? C'est bon de savoir tout ce genre de choses sociales, culturelles, ok, c'est important, mais c'est où le recherche très dure qui me mène que ça va avoir un impact sur le terrain? Et dernièrement, un engagement des problèmes d'éthique sur le terrain. Quand on rentre en le troisième domaine, supportive ecosystem, on rentre dans les espèces de institutional development, training and capacity building, aussi l'agrandissement de connaissances et legitimacy avec les personnes qui ne sont pas les chercheurs sciences sociales, aussi des choses comme Sonar Global et des réseaux qu'on a déjà parlé aujourd'hui. Et dernièrement, advocacy et l'argent, parce que ça, c'est vraiment important quand on rentre dans cette espèce de ou ces niveaux de santé globale. Alors, il y a différentes priorités dans le rapport. Très vite, on propose une fellowship Early Career Fellowship, ça veut dire comme une support postdoctorat pour des chercheurs dans les pays sud pour engager avec ce genre de travail, comme the Field Epidemiology Training Program qui existe. On dit que ça va être bon d'avoir un seed funding initiative comme celui-là de TDR qui donne l'argent, peut-être 10, 20 000 dollars à des instituts dans le sud pour la recherche, des cours pour les biomedical scientists et aussi un professional association and an annual conference, une conférence. Et quand on regarde à les niveaux de priorité, on voit que l'institutional development, c'est vraiment clé. Parce que si on a des institutions qui ont la capacité de faire ce genre de travail, les autres priorités vont venir ensemble. Alors, on divise ça dans trois côtés. Un, c'est integration and response agencies. Numéro deux, c'est un réseau global de fit for purpose units. Fit for purpose, c'est de faire de recherche appliquée hein, dans une flambée. Et troisièmement, c'est une capacité de coordination qui rentre là. Alors ça, c'est les 16 domaines priorités qu'on constitue dans ce rapport. Et on dit que si on fait ça avec du duress, avec du passion, on va avoir un impact positif dans le monde de flambée qui va venir plus en plus avec un monde qui change avec le climat, qui a des politiques, des problèmes avec politique et des autres choses. Alors on dit que, ok, voilà, ça c'est une slide de Wellcome Trust, il dit que every year il y a tel nombre de dollars que les flambées prennent de l'économie globale. Alors on dit, c'est quoi la valeur de faire ce genre d'investments pour qu'on mette les peuples au centre des flambées et des responses d'épidémiologie. Alors on dit que professionalization equals core capacity investments applied in basic science and a supportive ecosystem. Ça c'est notre modèle, on peut dire, simplifié. Et merci beaucoup.
Merci. On va passer à quelques questions ou quelques commentaires. Deux commentaires avant qu'on rebondisse sur la petite table ronde. Commentaire brûlant.
Oui, moi j'ai une question. Merci beaucoup pour votre intervention. C'était pour revenir sur la diapo des gaps. Mm-hmm.
Pour evidence-based medicine. Alors pour moi, quand j'attends evidence-based medicine, je pense de randomized controlled trials. Mais je pense qu'il y a des autres aspects, mais pour moi, c'est, je connais la littérature qui critique, on peut dire, littérature anthropologique qui critique les randomized controlled trials. À le même instant, j'ai fait plusieurs études avec des randomized controlled trials. Alors, je pense que oui, il y a un gap là, et je pense que pour les médecins, les épidémiologistes, on doit avoir des trials avec les sciences sociales qui sont forts comme ça. Et on peut le faire et connaître qu'il y a des problèmes avec ce genre de design, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas te donner un seconde si tu n'as pas ce genre d'évidence. Et j'ai raconté, par exemple, des personnes de Cochrane Review, et ils sont comme ça. Yeah, c'est vraiment strict. Et si tu dis, ah, il y a des autres façons d'avoir évidence, c'est une bataille, vraiment. Je pense que ça va être très difficile, et même, je n'ai pas commencé de vraiment penser comment est-ce qu'on pourrait faire ça. Peut-être il y a des autres personnes dans la chambre, on veut dire, qui a la salle, qui a pensé plus, je pense que c'est important.
Épidémiologiste vétérinaire, et dans, on va dire, les journaux que je lis régulièrement, comme PrevVetMed, etc., il y a beaucoup et de plus en plus d'études KAP qui sont très souvent faites par des slash vétérinaires, enfin en tout cas des gens des sciences dures qui s'improvisent, on va dire, sociologues, anthropologues. Et donc ça serait bien d'avoir un petit corpus pour un peu montrer quels sont les défauts et donner des recommandations sur, par rapport aux études KAP qui sont faites et qui ne sont pas de bonne qualité. Mmh.
Alors ton question, c'est que ça va être bon si on a une ressource qui a... Je n'ai pas totalement compris la question, excusez-moi. Ok, ça c'est une bonne question. Et peut-être j'étais un peu dramatique avec mon statement là. Je fais ça de temps en temps. Mais ça, actuellement, quand je travaille beaucoup avec des veterinarians, et actuellement j'ai fait beaucoup des cours avec des veterinarians, santé publique veterinarians. And in one of those courses, I had a CAP study on brucellosis and milk production in Zimbabwe. Comme mon exemple. Et c'était une étude, il faisait beaucoup de recherches, un questionnaire entre connaissances, attitudes pratiques. Il disait, OK, beaucoup de personnes boivent du lait, et il ne fait pas le chauffage, et il y a beaucoup de brucellosis, mais il n'explique rien. Réellement. Alors, anyhow, it's just an example. There are some articles that criticize the methodology that I could point you to that are very well done, but I agree that there's room to look at this more critically, and it's one area that I feel I might do at some point because I've been exposed to a lot of these studies. I think there's value for... Je pense qu'il y a valeur d'étude entre l'organisation, even like internal process, right, of an organization doing a CAP study changes the attitude of the field staff also. So there's a impact in the response organization that isn't necessarily even related to the data that you don't want to throw out, right? Then, but there's a reification of the data that's taking place, right? Where the data becomes separated from the field reality. And I think that's a little bit dangerous. And then there's also questions around the accuracy of the actual data itself, you know, like just the way the questions are phrased and all these things.
Une dernière question, et puis après on va passer à la deuxième partie.
Ouais, moi j'avais une question sur la suite, en quelque sorte la suite du rapport. Vous l'avez envoyé à des institutions, avoir des réponses, vous allez faire du lobbying avec. Vous avez, parce que c'est un argumentaire fort, yeah. Donc qu'est-ce que vous allez en faire après?
C'est une bonne question. Alors moi j'ai fait une présentation comme ça à Glopidar durant la conférence. Et c'est vraiment Welcome Trust. Il y a une groupe de bailleurs de fonds qui est un groupe de, c'est quoi le nom, Social Science Research or Funding Group, je pense, dans Glopidar. Et Welcome Trust est le chair de ça. Alors c'est vraiment entre une discussion entre les bailleurs de fonds maintenant, mais il y a leur menu qu'ils peuvent that they can consult. Pour moi, je pensais que ça va avoir beaucoup plus des étapes après que le rapport est fini. Alors, mais tu ne sais jamais l'impact exactement. Alors, je pense que ça prend du temps pour les barres de fond de s'organiser et de parler et tout ça. Alors, on va voir. Je ne pense pas que c'est juste ça qui va avoir un changement. C'est la communauté généralement. C'est juste une petite partie. Et je ne pense pas qu'il y a des choses très nouveaux là que je dis, qu'on dit qui est controversial at all. So I think it's up to all of us as a community to fight for these things because it's going to take a lot of pushing over time and it's going to be challenging the budget lines of organizations. Like if we take the WHO Health Emergencies Program like an example, they have a cap, a budget cap that they can use, meaning that if I want to give them $10 million for this, it's not going to increase their budget. Because it's set by the World Health Assembly, the social scientists are going to compete with somebody else in the emergencies health program. Do you understand? Tu comprends un peu? Alors ça devient très politique entre les disciplines et les units et les secteurs.
Ok, merci. Merci pour cette réflexion critique et cet apport que vous faites pour un meilleur usage des sciences sociales dans les épidémies et surtout le plaidoyer vers les institutions. Oui. Je pense qu'on voit qu'aujourd'hui, en tout cas, il semble qu'au niveau de l'OMS, les choses bougent un peu maintenant à évaluer, mais je crois que les choses bougent un tout petit peu. Et on va peut-être passer au deuxième point, c'est-à-dire la table ronde, qui va nous permettre que les différents réseaux puissent s'exprimer.
Donc, je merci peux dire beaucoup. Encore quelque chose. J'ai encore quelque chose à demander à Kevin. C'est très très riche, on est presque un peu écrasé avec tout ce qui est toute la tâche. Bien sûr, il y a pour les bailleurs, c'est simple pour eux, il faut juste financer. Pour nous, c'est, je pense, beaucoup plus compliqué. Et même pour la table ronde, est-ce que tu aurais des suggestions? Est-ce que peut-être, finalement, il ne faudrait pas que chaque réseau ou les réseaux ensemble s'asseyent, consacrent une journée à regarder tout ça, voir point par point, qu'est-ce qui peut être fait? Est-ce que même pour la table ronde, tu as des suggestions de sujets sur lesquels il faudrait avancer plus vite parce que ça sera plus facile? Parce que c'est souvent les bailleurs, ils répondent à des demandes. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels il faudrait demander? Ça sera mieux entendu?
Ça, c'est une bonne question. Je pense que maintenant, il y a beaucoup de momentum dans cet espace. On peut dire qu'il y a une unit qui est financée de, je ne sais pas où, mais ils sont avec UNICEF, qui est à North Kivu, qui fait beaucoup de bon travail sur le terrain. Mais je pense qu'il y a un gap au niveau de standardization. Okay? Alors, il y a beaucoup de différents projets qui font des choses un peu différentes. Ça va être bon si on peut standardiser des approches, guidelines, par exemple, pour les études de CAP, OK? Standardized field training guides, OK? Par exemple, un demande que j'écoute souvent, c'est d'avoir des manuels pour faire des investigations très rapides, comme the epidemiologists will be, let's say, if there's an outbreak in country X, epidemiologists will go out for a field investigation. What should the social scientists be doing in those teams? C'est quoi l'approche qu'ils doivent prendre? Et je pense d'avoir une manuel qui est 20 pages, 25 pages, qui est simple, mais aussi qui a tout pour guider ce processus. Alors, c'est vraiment de supporter. Et je pense qu'il y a un problème de coordination aussi avec les différents réseaux qu'on doit améliorer dans un sens.